Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et bel âge. Au programme, Carla Blé, toujours à l'écoute. Et de la bonne humeur pour tous. Bonne écoute.
Carla Blé, toujours à l'écoute. Un texte de Stanley Péan, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. S'il fallait concevoir un scénario de film sur la vie de la musicienne Carla Blé, née Lovella May Borg, on le ferait commencer dans une boîte de jazz new-yorkaise à la fin des années 1950 pendant un concert du pianiste Count Basie et de son orchestre. Count Basie jouait au Birdland, au Basin Street et à la Jazz Gallery à l'époque où je travaillais comme vendeuse de cigarettes, se remémore d'ailleurs la principale intéressée à l'occasion d'une entrevue accordée au pianiste Ethan Iverson, critique occasionnel qui devait esquisser son portrait pour le magazine The New Yorker en 2018. J'ai eu la chance de l'entendre plus souvent que n'importe quel autre artiste, et je considère qu'il a fait mon éducation. Le scénario nous amènerait ensuite à Oakland, en Californie, où Carla Blé a passé son enfance auprès d'un père professeur de piano et chef de chœur à l'église. Fervent croyant, Emil Borg encourage sa fille à apprendre le chant et le piano dès l'âge de 3 ans, afin qu'elle puisse interpréter de la musique sacrée. Mais elle abandonne ses cours à l'adolescence. L'un des frères aînés de son amie, Sylvia, la courtise et tente notamment de l'impressionner avec sa collection de disques de jazz. Il l'invite bientôt à un concert de Lionel Hampton à l'Auditorium d'Oakland, puis, un autre soir, au Jazz Workshop, club réputé de San Francisco où se produit le quartet sans piano du saxophoniste baryton Jerry Mulligan, avec Chet Baker à la trompette. La jeune musicienne apprécie le spectacle, même si la notion d'improvisation la laisse dubitative. Cette approche lui apparaît alors comme un obstacle, plutôt que comme un moyen de libération, un point de vue appelé à se modifier au fil des ans. Ayant quitté l'église de son père puis sa ville natale, Carla joue du piano dans des bars de Monterey et de San Francisco qu'elle n'a même pas l'âge de fréquenter. Et elle n'attire guère la sympathie des habitués de ces établissements avec ses excentricités stylistiques et son aversion pour l'improvisation. Bientôt, elle quitte la côte ouest pour New York, où elle espère voir et entendre le trompettiste Miles Davis au Café Bohémia. Installée dans la Mecque du jazz, la gamine de 17 ans se gave de musique dans les clubs auxquels elle accède librement grâce à un nouveau travail. « Je me suis déniché un emploi au club Birdland en tant que vendeuse de cigarettes et c'est ainsi que j'ai fait mes études. Je vendais des cigarettes, des peluches et c'est moi qui vous prenais en photo avec votre copine en guise de souvenir de votre présence » avec à votre bras quelqu'un qui souvent n'était pas votre épouse. Je ne vendais presque pas, j'écoutais. Si vous me demandiez un paquet de Lucky Strike, je répondais, attendez que le solo soit terminé. Au Birdland, outre les concerts de Basie, elle a la chance d'assister à ceux de Bud Powell et de Thelonious Monk qui exerceront sur elle une influence certaine. En musique, l'écoute est plus importante que quoi que ce soit d'autre parce que c'est ça, la musique, ainsi qu'elle l'affirmera plus tard. Quelqu'un joue quelque chose et vous le recevez. Le dimanche, la Jazz Gallery s'ouvre aux familles et tous les musiciens de l'orchestre peuvent alors, s'ils le désirent, inviter femmes et enfants. Notre héroïne garde un excellent souvenir de ces spectacles où toutes ses épouses et ses rejetons fixent leur homme ou leur papa en train de donner la réplique au pianiste et maestro Count Basie. À cette époque, celle qui se fait désormais appeler Karen Borg s'éprend du pianiste montréalais Paul Blais, qu'elle a vu jouer aux côtés de l'imposant Charles Mingus et qu'elle épouse en 1957. À 21 ans, elle adopte un nouveau prénom et le patronyme de son mari pour devenir Carla Blais, nom sous lequel elle ne tardera pas à s'imposer. À la fin des années 1950, la jeune conjointe de Paul Blais a l'impression de ne pouvoir mettre le pied hors de leur appartement sans tomber sur une légende du jazz. Dans une station de métro, un jour, le couple croise Louis Armstrong et sa femme, que Paul accoste volubile. Un soir, le contrebassiste Charlie Mingus, ex-compagnon d'armes de son mari, ayant joué sur Introducing Paul Blais, paru sous étiquette Début en 1953, accoste Carla avec une proposition alléchante « How would you like to play with me ?» qu'elle interprète à tort comme les prémices d'une tentative de séduction. L'invitation demeure lettre morte. Un soir où Paul accompagne Mingus au piano, elle fait cependant la connaissance du poète Paul Haines, qui n'a encore rien publié sinon des notes de présentation pour quelques albums de jazz. Bientôt, l'idée de collaborer avec lui germe dans l'esprit de la compositrice. Mais n'anticipons pas. À Ethan Iverson, qui l'interroge en 2018, Carla Blais ne cache pas l'admiration qu'elle éprouve pour Thelonious Monk depuis l'époque où elle allait régulièrement l'écouter au Five Spot. « Je pensais qu'il aurait dû être en charge de tout, être nommé roi du monde ou quelque chose du genre. Tout ce qu'il faisait ou disait, sa manière de bouger, de jouer, c'était parfait. Il ne faisait jamais d'erreur. C'est très étrange. Je ne l'ai jamais entendu grogner et arrêter de jouer ce que je fais tout le temps. Je pensais qu'il était une de ces étoiles dans la galaxie des grands jazzmen, et je l'ai compris dès la première note. » À cette époque, c'est néanmoins Count Basie qu'elle considère comme l'arbitre absolu de la manière de jouer deux notes, la distance entre elles et leur volume. Fort heureusement, Carla Blais n'aura jamais l'outrecuidance de singer le style pianistique de cette idole de jeunesse, bien au contraire. Ce qui n'empêchera pas certains musiciens de son orchestre de la surnommer affectueusement la Countess Blaisie, ou mieux, Blaithoven. Sa carrière a généré une trentaine d'albums mettant en lumière ses talents de soliste et une autre trentaine réalisée en collaboration avec certains de ses contemporains les plus audacieux, notamment le Jazz Composers Orchestra ou le Liberation Music Orchestra de Charlie Haden. Tout au long de sa carrière, Carla Blais se définira plus volontiers comme compositrice à 99% que comme pianiste à 1% seulement. Son mari, Paul, sera le premier à créer sur disque une de ses compositions, O plus One, sur Solemn Meditation, paru sur GNP Crescendo en 1958. Mais bientôt, ses compositions entrent dans le répertoire de plusieurs contemporains. George Russell enregistre Bent Eagle sur Stratus Funk, sur étiquette Riverside en 1961, puis Jimmy Giuffre grave Ictus sur Thesis, un album réalisé en trio avec Paul Blais au piano et Steve Swallow à la contrebasse, tous deux étant respectivement le conjoint d'alors de Carla et le futur époux de la musicienne. Vous écoutez Carla Blais, toujours à l'écoute, un texte de Stanley Péan, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue Inconvénient. En 1964, bien que Carla et lui soient déjà séparés, Paul Blais fait paraître Barrage, sur étiquette ESP Disc, un album en quintette mettant à contribution les saxophonistes Dewey Redman et Marshall Allen et présentant exclusivement des compositions de Carla. De son côté, avec son nouveau compagnon, le trompettiste Michael Mentler, Carla prend part à la fondation de la Jazz Composers Guild, un collectif né de l'initiative du trompettiste Bill Dixon et réunissant bon nombre d'artistes du jazz d'avant-garde. En l'espace de 2 ans, Carla et Mentler donnent naissance à Karen Mentler, qui marchera dans les traces de sa mère, de même qu'au Jazz Composers Orchestra, émanation de la guilde. Il grave aussi Jazz Realities, sur étiquette Fontana en 1966, avec le saxophoniste Steve Lacy. En janvier de 1967, son ami Paul Haynes lui envoie de Paris un poème qui colle à la syllabe près aux notes d'une mélodie dont elle vient d'accoucher. « Detective Writer Daughter ». Sous l'influence du Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, la compositrice a l'idée de réaliser un album similaire en jazz. Elle invite Haynes, relocalisé en Inde, à créer pour elle un livret d'opéra. L'ambition qui la guide remonte à sa tendre enfance. À 9 ans, l'enfant prodige avait commencé à esquisser un premier opéra qu'elle projetait d'intituler « Over the Hill ». Un quart de siècle plus tard, elle plongera corps et âme dans la création de son œuvre maîtresse, à laquelle le librettiste Haynes donnera le titre « d'Escalator Over the Hill ». L'écriture, la composition et la création de l'œuvre requièrent près de 3 ans et les séances d'enregistrement nécessitent la contribution de 20 chanteurs et d'une 50aine de musiciens, tous membres du Jazz Composers Orchestra. Les journées passées dans les spacieux studios new-yorkais de la boîte RCA Records entre novembre 1968 et juin 1971 portent fruit. Les créateurs récoltent 100 heures de matériel. Les prises sélectionnées, mixées et masterisées occupent 6 phases de micro-sillon. Parues sous l'appellation de chrono-transduction, avec paroles de Paul Haynes, adaptées et mises en musique par Carla Bley, produit et coordonné par Michael Mentler, l'album s'avère inclassable parce qu'il ne sonne comme rien d'autre dans l'histoire du jazz, quoique certains critiques notent une parenté avec l'univers de Frank Zappa. Pour tenter de décrire l'œuvre, les commentateurs parlent de la rencontre entre le jazz post-moderne et le rock psychédélique sauvage, avec des interludes électroniques aux formes libres et de jolies ballades bien mélodiques. Le tout agrémenté des poèmes insolites de Haynes, le plus souvent brefs et elliptiques, surréalistes voire dadaïstes. En plus d'être sacré album de jazz de l'année par les lecteurs du magazine Melody Maker, Escalator Over the Hill vaut à ses créateurs en 1972 le prix du meilleur disque de jazz moderne décerné par l'Académie du jazz. Par la force des choses, notre film sur le parcours singulier de Lavella May Borg revêt les atours d'une chronique sur l'évolution du jazz d'avant-garde. Dès 1969, le contrebassiste Charlie Hayden, militant de gauche et ex-compagnon de route d'Ornette Coleman sur les avenues les plus libertaires du jazz, commande à Carla Bley des pièces pour son Liberation Music Orchestra sur étiquette Impulse en 1970 qui réunit un redoutable bataillon d'improvisateurs. De Don Cherry à Dewey Redman en passant par Roswell Rudd, Howard Johnson, Paul Motion et Gatto Barbieri. Chacun à sa manière et tous ensemble, ils élaborent un discours musical et idéologique qui n'a guère vieilli et demeure toujours actuel, pertinent. Le tournant des années 70 voit émerger de grands orchestres qui entraînent le jazz dans une nouvelle direction. Moins imposantes que celles qui les ont précédées, ces formations d'une 15aine de lutrins menées par les Don Ellis, Michael Gibbs et autres maestros novateurs puise certains éléments stylistiques dans la musique classique, la musique d'avant-garde ou encore les trames sonores pour le théâtre, dans un esprit similaire à celui du Third Stream, inauguré par Gunter Schuller une quinzaine d'années plus tôt. Le style de Carla Bley s'apparente à celui des surnommés, mais son approche se distingue en ce qu'elle est nettement moins formaliste, plus personnelle et intuitive. On remarque aussi chez elle un soupçon de fantaisie et d'autodérision moins courant chez ses contemporains. Récipiendaire en 1972 d'une bourse Guggenheim qui lui permet de poursuivre son travail de compositrice, Carla Bley met sur pied en 1973, avec la complicité de Michael Mantler, sa propre étiquette de disque, Watt. Pendant 6 mois, elle contribue comme claviériste au groupe de Jack Bruce, ex-chanteur de la formation rock Cream, qui avait participé à Escalator Over the Hill, puis choisit de voler de ses propres ailes. Carla compose pour des orchestres dont la taille varie selon son inspiration, entre une demi-douzaine et une dizaine d'instrumentistes. Sous la double griffe Watt ECM, les titres se succèdent à bon rythme. European Tour en 1977, Music Mechanic en 1978, Social Studies en 1981, Live en 1982 et I Hate to Sing en 1984. En 1985, on retrouve aussi Carla Bley à la tête de l'Europa American Big Band, regroupant pour l'essentiel des membres du Vienna Art Orchestra, jumelé à quelques musiciens de son groupe, le claviériste Larry Willis, le guitariste Hiram Bullock, le bassiste Steve Swallow et le batteur Victor Lewis, pour ne nommer que ceux-ci. À l'invitation de Jack Bruce, Carla Bley renoue avec le genre opératique en créant le bref For Under the Volcano, d'après le roman éponyme de Malcolm Lowry, présenté au New Music America Festival de Los Angeles en 1985. Toujours aussi prolifique, elle offre aux mélomanes notamment Night Glow en 1985, Sextet en 1987, Fleur Carnivore en 1989, Big Band Theory en 1993 et aussi 2 opus plus intimistes réalisés en duo avec Steve Swallow, un complice de longue date, Duets en 1991 et Go Together, en 1992. Leur collaboration ne cessera de s'intensifier et pour cause. Ayant quitté Mantler en 1991 pour unir sa destinée à celle de Swallow, la musicienne grave 3 ans plus tard Songs with Legs sur étiquette Watt ECM avec Swallow à la guitare basse et Andy Shepherd au saxophone. Quoique toujours plus à l'aise dans le rôle de compositrice et d'arrangeuse que dans celui de soliste, elle donne au fil des ans l'impression de s'accoutumer au solo, laissant libre cours à son jeu de piano si particulier, si sobre, qui trahit l'influence de Monk et de son proche cousin stylistique Herbie Nichols. Par ailleurs, ce combo fait songer à celui de Jimmy Giuffre, au répertoire duquel Carla avait contribué 30 ans plus tôt. Entre ses multiples engagements et enregistrements à la tête de ses propres groupes ou au sein du Liberation Music Orchestra de Hayden, elle convoque à nouveau Swallow et Shepherd pour Trio, sur étiquette ECM en 2013, puis Life Goes On, sur étiquette ECM en 2020. En février 2020, à l'émission Open Jazz qu'anime avec brio Alex Dutille sur France Musique, elle commente en ces termes le travail du trio. « Nous avons appris à respirer ensemble lorsque nous jouons. J'entends nos voix dans l'oreille de mon esprit quand je compose pour le groupe. J'aime particulièrement le flux conversationnel que le format du trio permet. Nous sommes essentiellement un orchestre de musique de chambre et ça me permet d'écrire de la musique sans éclat ni exagération. Une musique réduite à ses éléments les plus basiques. » Ce format exige également de chacun d'entre nous qu'il improvise dans l'esprit de la composition, ce qui est à la fois un défi et, les bons soirs, une intense satisfaction. Si ce n'avait été de sa lutte sans merci contre un cancer du cerveau en 2018, l'iconoclaste compositrice n'aurait peut-être pas été contrainte à ralentir ses activités. Et pour conclure notre documentaire imaginaire, nous pourrions reprendre des extraits d'un entretien accordé par Carla Bley à John Doran, qui paraît dans The Quietus en avril 2021. « Il me manque un petit bout de cerveau. Ils m'ont opéré il y a environ 3 ans. Parfois, je ne connais pas la réponse à une question, alors je pense qu'ils ont dû retirer quelque chose par erreur, car depuis l'opération, je n'ai plus l'oreille parfaite. Il y avait une tumeur à l'extrémité du lobe occipital de mon cerveau. Je pense que cela a été causé par le fait de travailler sur 3 formats musicaux différents à la fois. Ça m'a presque brûlé la tête. » Ellipse. Il y a bien des choses qui clochent depuis. Je ne peux pas voir la note à l'extrême gauche de la partition si je ne bouge pas la tête et, quoi d'autre? Des choses tragiques, des choses tragiques. Fort heureusement, comme l'affirme sans embâge le titre de son plus récent album pour Carla Bley, Lives Go On, comme la création, comme l'écoute. C'était Carla Bley, toujours à l'écoute, un texte de Stanley Péan, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient.
De la bonne humeur pour tous, un texte de Ève Martel, paru dans Bel Âge. Exercer ses muscles de bonne humeur demande un examen de nos habitudes. Mes astuces pour accueillir plus de joie dans sa vie. Un jour, où j'étais d'humeur maussade, j'ai remarqué que je ruminais en rejoignant dans ma tête une confrontation avec un livreur impoli. Il m'arrivait aussi de me sentir abattu par une journée sans conversation, où l'isolement me pesait. Pourtant, il suffit de calibrer sa perception de la situation pour en réduire les mauvaises vibrations. Ainsi, plutôt que de me laisser intoxiquer par le souvenir des échanges corsés avec le livreur, j'avais le choix de me dire que, dans le fond, j'étais chanceuse d'être plus patiente que ce dernier et que ça devait être lourd pour lui d'être aussi mal engueulé. Et qu'au lieu de m'arrêter à l'idée que je suis seule dans mon salon à parler à mon chat, je peux faire la liste de gens avec qui j'aime discuter et mettre à l'agenda des appels au téléphone ou par Zoom. En me concentrant sur les sources d'amour dont je jouis, pourvu que je m'active un peu, je réaliserai la chance que j'ai d'avoir des proches avec qui je peux échanger alors que d'autres vivent dans l'isolement total. C'est ce que j'essaie de plus en plus d'intégrer à ma vie, la bonne humeur active, celle qui insiste pour prendre le micro en me chantant que tout ira bien et que j'ai le droit d'être heureuse. Être de bonne humeur ne veut pas dire ignorer les sentiments de tristesse ou les soucis qui nous habitent parfois. Il s'agit en fait d'un outil qui nous aide à nous laisser gagner par l'euphorie plutôt que par l'anxiété. Voici quelques astuces qui nous aideront tous à ressentir les bienfaits de la bonne humeur plus souvent. Exercer la bonté. Pour moi, la bonté est une valeur primordiale. Cela implique que, devant une situation confrontante, je choisis le chemin qui mènera vers une résolution paisible. La serveuse apporte la mauvaise assiette. Expliquons-lui calmement, plutôt que de piquer une crise, et la priver d'un pourboire. En plus de ne pas gâcher sa journée, on rentrera chez soi le cœur bien plus léger. La bonté, c'est aussi faire un compliment, poser un geste pour aider quelqu'un, parler avec douceur et encouragement. C'est donner le meilleur de soi à son prochain. Apprécier les petites choses. Vivre dans la bonne humeur passe également par savourer les petites douceurs de la vie quotidienne. L'odeur du café le matin, tomber sur son film préféré par hasard, à la télé, regarder les oiseaux se nourrir dans la mangeoire qu'on a installée près de la fenêtre. En s'attardant à ces petites choses et en y prenant plaisir, on reste dans une humeur plus positive au fil de nos journées. Créer de nouveaux moments. Le cerveau adore être sollicité et vivre de nouvelles choses. Laissons donc libre cours à notre curiosité. Cela peut se faire en s'inscrivant à un atelier d'apprentissage d'une langue, en achetant un nouveau jeu de cartes, ou encore en prenant un bon bain avec une mousse parfumée qui surprend agréablement nos narines. Enregistrer des instants de découverte sur la cassette de notre cœur nous aidera à nous sentir bien et à rester allumés. Et ça, c'est une excellente source de bonne humeur. Pour mettre plus de sourire dans mes journées, je me concentre sur ce qu'il y a de bon dans chaque personne, j'apprécie les petites choses, je reste en mode découverte. C'était « De la bonne humeur pour tous », un texte de Ève Martel paru dans « Bel âge ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Lynn Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.